Voilà ce qui est affiché sur l'écran et est en ligne avec ce qui a été dit ce matin. Bienvenue à la maison. Et du coup, c'est tellement encourageant. Je regardais vite fait dans mes notes, apprenant que c'est moi qui allais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et tout de suite, j'ai été conduit à Luc 15, la parabole du fils prodigue. Et bien sûr, Antoine n'en avait aucune idée, donc merci Seigneur. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de sentir que le Saint-Esprit conduit toutes choses. Amen. Je vous propose de prier pour commencer. Seigneur, merci pour cette journée. C'est la journée que tu as faite, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es là, parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous suffis. Parce que toutes nos sources sont en toi. Alors Seigneur, le temps de louange continue, alors que nos cœurs sont devant toi, alors que nous ouvrons ta parole, celle que tu nous as donnée, Seigneur, pour te connaître aussi. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien écoutez, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir donc à Luc 15. On va relire ce passage. Je pense que la plupart d'entre nous le connaissent très bien, mais c'est toujours important de relire. Donc Jésus en fait est avec des pharisiens et d'autres personnes autour d'une table, des pécheurs notoires. Et vous savez qu'un des buts des pharisiens qui était tellement focalisé sur la loi, c'était vraiment de tendre des pièges à Jésus pour voir s'il allait tomber dedans et s'il allait dire des bêtises par rapport à la loi, quoi. Et donc, alors qu'il est invité, en plus, il est invité à manger chez un de ces pharisiens. Il commence à leur expliquer ses paraboles par rapport aux pécheurs, etc. Parce que Jésus n'avait pas peur de se mélanger avec les pécheurs. C'est ça qui est beau, tellement une inspiration. J'ai réécouté un vieux chant qu'on écoutait d'ailleurs en Angleterre il y a pas mal d'années. Jésus, Jésus, ami des perdus, ami des pécheurs. Merci Seigneur. Et du coup, il leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Juste pour vous dire un petit éclairage historique par rapport à ça, au moment où le fils dit cela à son père, quand on obtient l'héritage, en fait, normalement, c'est quand le père ou la mère sont morts. Et du coup, clairement, pour le fils de demander sa part d'héritage à son père, c'est comme s'il lui disait « J'aimerais que tu sois mort. J'aimerais que tu sois mort pour que mon héritage me revienne tout de suite. » Donc, c'est quelque chose d'assez assez violent. Mais le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, le fils fait une introspection un peu, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père. Les amis, je vous propose de faire quelque chose. Fermez les yeux, imaginez-vous cette scène. Imaginez ce fils dans son désarroi, rempli d'humilité, mais en même temps de honte, qui ne veut plus être appelé le fils de son père. Fermez les yeux, imaginez, voyez-le portant ses guenilles, étant tellement désespéré, étant au bout du rouleau. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému, touché de compassion. Il courut, imaginez-vous la scène, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la-lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui s'était passé, de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour parce qu'il lui a été rendu en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, il ne dit pas mon frère, il dit quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué le veau gras. » Et le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Waouh, quelle histoire incroyable. Quelle parabole incroyable. Et du coup, c'est très intéressant de voir un petit peu comment se comportent les trois protagonistes de cette histoire. Donc d'abord, bien sûr, il y a ce fameux fils cadet. Donc comme je vous ai dit, il veut faire en fait comme si son père était mort. Il lui demande sa part d'héritage. Et puis il s'en va dépenser son argent dans la débauche, dans la fête, dans l'alcool, dans les prostituées, dans plein de choses en fait, où il se fait du mal, quoi. Et c'est comme si, je vais essayer de pas trop être sur mes notes en fait, parce que j'ai vraiment à cœur de vous parler de mon cœur, c'est comme si, et je sais que c'est un danger qui nous guette tous, même chrétiens, même enfants de Dieu, c'est comme si être dans la maison de son père, avoir tout, il avait tout, tout pour lui, il y avait des grandes richesses, il y avait vraiment tout pour profiter de la vie. Et c'est comme si ça ne lui suffisait pas et qu'il avait besoin d'aller profiter de la vie dans des choses que le monde offre. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui peut nous guetter, et on parle de ça pour les jeunes, mais même pour nous en tant qu'adultes, et même à tout âge qu'on ait, toute période de vie qu'on soit, c'est comme si des fois, c'est comme si Dieu ne nous suffisait pas. Et qu'on a envie de le trouver dans autre chose. Alors, il n'y a rien de mal, surtout pour nous Français, à un bon repas, à un bon vin, une bonne bière bien fraîche. Il n'y a rien de mal à toutes ces choses-là, mais tout est dans les proportions des choses, et tout est dans notre cœur quand on fait ces choses-là. Est-ce que Dieu me suffit ? Est-ce que les temps que je passe dans la présence de Dieu, à le louer, l'adorer, à être dans sa présence, avec mes amis aussi, est-ce que je trouve mon plaisir en ça, je trouve vraiment de ma satisfaction, c'est là que je me régale le plus, c'est là que je me sens le plus rempli? Ou alors est-ce que j'ai besoin d'aller trouver ces choses-là dans d'autres choses que le monde a à offrir? Et c'est comme si, j'avais entendu cette expression une fois, c'est comme si la fête, etc. Encore une fois, il n'y a pas de mal à faire la fête, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans quoi est mon cœur dans tout ça? Est-ce que je suis dans l'excès, etc. C'est comme si la fête, on peut prendre l'exemple des boîtes de nuit, etc. C'est comme si c'était le service marketing de l'enfer. Mais même pour toute chose qu'on fait en excès, même pour la nourriture, même pour toute chose, c'est comme si l'ennemi avait un service marketing où il te fait miroiter des choses et ça te donne envie. En fait, au début, ça va être génial. Au début, tu vas consommer ces choses, tu vas faire ces choses-là, tu vas trouver ça génial peut-être pendant un petit laps de temps. Mais rapidement, tu vas te rendre compte combien tout ça est vide et combien alors tu as l'impression de te remplir. En fait, tu es en train de te vider. Et je pense que c'est un petit peu la démarche de ce fils-là qui, ce qui est dans la maison de son père, il n'y trouve pas satisfaction et il va chercher ça ailleurs. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il se rend compte combien... il est vidé et combien cela non seulement ne le satisfait pas, mais ça lui fait du mal et il finit par se retrouver tout seul. Et c'est ce qui se passe en fin de compte. Moi qui ai pas mal fait la fête dans la vingtaine, j'ai vécu ce genre de moment-là à plusieurs reprises où vraiment on croit être avec du monde, on croit se faire du bien, on croit faire plein de choses géniales, mais en fin de compte, on se retrouve tout seul. Et vous savez, les amis, qu'on peut même être avec plein de gens et en fait se retrouver tout seul. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises aussi. Mais Dieu est toujours là. Et c'est ça qui est important de se rendre compte, c'est que Dieu, même dans ces moments-là, est toujours là. Ça m'est arrivé une fois, une petite anecdote, je vous raconte, dans mes périodes où je faisais trop la fête, où je jaugeais très mal justement ce genre de choses-là. J'étais saisonnier à Val d'Isère et je travaillais dans une chaîne hôtelière. Et puis un soir, donc, je me retrouve avec des excès d'alcool, etc. Et vous savez, les stations de ski, c'est pas comme l'été. L'été, les stations balnéaires, c'est plutôt festif, c'est plutôt assez léger comme atmosphère. L'hiver, c'est plus noir, c'est des ambiances qui sont, c'est encore plus d'excès en fait. On est dans le froid, on est dans des espaces intérieurs. Pour ceux qui connaissent la station de ski Tignes, c'est tout, il y a plein de choses souterraines en fait à cause de la neige, etc. Il y a plein de bars souterrains et tout. Et donc je m'étais retrouvé là, et puis j'étais rentré chez moi à des heures indues, et je me retrouvais avec ces gars-là qui me proposaient de la cocaïne, des choses, plein de choses soi-disant extraordinaires. Merci Seigneur qui m'a gardé de franchir ce cap-là de drogue vraiment dure. Mais c'était incroyable, comme une fois, alors que j'étais dans cette atmosphère-là, je rentrais à la maison, j'étais en train de cuver un peu ce que j'avais bu, ce gars-là se met à me poser des questions sur ma vie, le même qui me proposait de la drogue se met à poser des questions sur ma vie, et là je commence à lui parler de Dieu, je commence à lui parler de Jésus, et je sens le Saint-Esprit venir dans la pièce, et lui se met à pleurer, et était hyper touché par Dieu, et voilà, on avait une super conversation. Voilà, ça paraissait totalement improbable, cette conversation-là, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'endroit assez noir, il n'y a pas d'endroit assez loin où Dieu ne peut pas venir te chercher, Dieu ne peut pas venir te trouver. Et ce moment-là que j'ai vécu, ça a été un des petits ingrédients qui, par la suite, ont fait que je suis vraiment revenu à la maison du Père. Amen. Et du coup, ce fils, il est au fond du gouffre, etc. Et il ne se rend pas compte de tout ce qu'il a. Il cherche ailleurs. Il cherche ailleurs. Et ça, vraiment, ça nous parle aussi de la reconnaissance. Des fois, on veut toujours, vous savez, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On croit toujours qu'on va trouver notre bonheur ailleurs. Mais l'arme la plus puissante vraiment contre ça, c'est la reconnaissance. C'est de se rendre compte de ce que nous avons. Ce que nous avons en Dieu. C'est très humain, surtout dans notre société de consommation, de vouloir toujours chercher ailleurs. Mais soyons reconnaissants. Je me rappelle à une époque, Emmanuel nous avait fait faire un exercice où chaque jour on marquait 25 choses pour lesquelles on était reconnaissant à Dieu. Et on avait fait ça sur 40 jours, et en fait ça faisait 1000 choses, si le calcul est bon, je crois que c'est ça. Ça faisait 1000 choses pour lesquelles on était reconnaissant à Dieu. Et en fait il y a tellement de choses, si on prend le temps de s'arrêter, de réaliser qu'en fait, non, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, j'ai pas besoin de faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour mes enfants, merci Seigneur pour mon église, merci Seigneur pour la... J'ai un toit sur ma tête, j'ai de la nourriture dans mon assiette. Et il y a tellement de raisons, de choses par grâce. Et quand je suis dans cette attitude-là, ça me donne beaucoup moins envie d'aller voir ailleurs. Et ça me rapproche de mon Père, ça me rapproche de ses bienfaits, ses bontés. Amen. Amen. Et du coup, ben voilà, lui, il se rend compte au bout d'un moment, ce jeune fils, il se rend compte, de l'état dans lequel il est. Et il y a ces paroles qui sont tellement fortes. Il y a Glorious qui a fait un chant, on l'écoutait au boulot cette semaine, c'est marrant ce chant. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il y a ce moment où le fils touche le fond. Et vraiment, et des fois, combien vous savez, les amis, que des fois on a besoin de toucher le fond, et c'est quand on touche le fond qu'on réalise qu'on est perdu, et que là on se lève. Et c'est écrit, il se leva et il s'est dit, j'irai vers mon Père. Et c'est vraiment ma prière pour ce matin, c'est que plusieurs d'entre nous, ça soit ce moment-là où tu te lèves et tu te dis, j'irai vers mon Père, je vais retourner à la maison du Père. Amen. Et il va vers son Père, et puis... voilà, c'est de l'humilité, mais il y a en même temps tous ces mensonges où il dit « je ne suis plus digne d'être appelé fils ». Ces mensonges, oui et non, en fait, il a tellement, c'est vrai, il a été très dur avec son père, et on comprend qu'il se sente comme ça, qu'il soit plus digne d'être appelé son fils. Et il y a comme cette crainte, c'est une crainte de son père, c'est une crainte de retourner, dire « non, je vais travailler pour toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Et il y va dans cette démarche d'humilité, mais en même temps en se rabaissant comme ça, peut-être même à l'excès, parce que en fait, le fait qu'il se rabaisse autant montre qu'il ne connaît pas réellement son père. Il ne connaît pas qui est réellement son père. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? Quelle est la réaction du père ? Et j'avais entendu ça aussi en Angleterre, ça m'avait parlé qu'en fait, bizarrement, cette parabole est appelée la parabole du fils prodigue. Mais en fait, le mot prodigue veut dire réellement déverser, pourvoir, déverser. En fait, ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole du père prodigue. Parce que si vous regardez, en fait, le personnage le plus important de cette histoire, ça n'est pas l'un des fils, c'est le père. Parce que l'image que Jésus dépeint là, Jésus est venu révéler le Père, l'image qu'il dépeint là, c'est l'image de notre Père céleste. Et je vous ai fait fermer les yeux, imaginez-vous, le Père, il était tout ce temps en train de guetter son fils. Alors que son fils faisait n'importe quoi, lui était en train de l'attendre. Il n'était pas en train de juger, il n'était pas en train de ruminer qu'est-ce qu'il va prendre quand il va rentrer, non. Il était dans l'attente, il était ému, c'est écrit après, ému de compassion, il était poussé par l'amour. Et il l'attendait. Et Dieu est pareil avec toi ce matin. Dieu est pareil avec toi. Peut-être que tu te dis, oh là là, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est impossible que Dieu m'aime. Je te dis, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Dieu est un Dieu avec un amour comme il n'en existe pas sur la terre. Un feu, il est un feu dévorant. Son amour est comme un feu dévorant. Et il a un amour tel pour toi. Il n'y a rien que tu aies fait qui ne peut t'empêcher qu'il t'attire à toi. Et il te cherche. Et ce matin, il est encore ému de compassion quand il pense à toi, même dans les pires moments de ta vie. Vous savez, si on projetait sur l'écran toutes les actions de nos vies, ça ne serait pas joli à voir. Peu importe que tu sois chrétien, pas chrétien, peu importe là où tu en es dans ta vie. Si on projetait encore pire, il y a une pub comme ça en ce moment, j'ai entendu à la radio, si on entendait toutes les pensées qui passent par ta tête et qu'on les projetait sur le mur, ça ne serait pas joli à voir. Ça serait pas, parce que malheureusement, nous sommes en chemin, nous ne sommes pas encore parfaits, enfin malheureusement, c'est comme ça, on est en train de grandir pour ressembler à Jésus, mais ce n'est toujours pas jojo parfois dans nos attitudes. Mais le Père est rempli de compassion, rempli d'amour. Il y a ce verset dans Romains qui dit que c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et pareil, je l'ai vécu à la suite, donc quand j'étais saisonnier, je me rappelle une fois, il y avait un week-end qui était organisé par mon église, donc moi j'étais à Val d'Isère, c'était dans les Cévennes, et je m'étais dit, bah tiens, c'était un peu le genre de truc, je me lèverai, j'irai vers mon père, c'était un peu ce même genre de scénario. Je me suis dit, je vais aller à ce week-end d'église, j'étais totalement hors sujet par rapport à tout ça, mais c'est pas grave, je savais que c'était un lieu d'amour quand même, donc j'y suis allé, et alors que c'est une histoire que je vous ai déjà racontée, mais pas à tout le monde. Le soir, il y avait la louange et tout, et vous savez, comme les paroles de Dieu percutent vos cœurs. Et alors, j'étais en pleurs, mais j'étais en larmes. C'est comme si j'étais vraiment baptisé par l'amour de Dieu. Et je pleurais, parce que je me sentais tellement mal, tellement coupable. Et en même temps, je sentais cet amour de Dieu qui se déversait dans tout ce qui se passait. Les frères qui viennent, qui prient pour moi, qui m'encouragent, ils savaient très bien quelle vie je menais. Et du coup, vraiment, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui peut résister à l'amour de Dieu. Moi, longtemps, j'ai cru que je pouvais faire ma vie sans lui. Et j'aime décrire ça comme un peu un élastique. En fait, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est comme si tu avais une ceinture, vous savez, dans ces jeux gonflables, on vous met une ceinture autour de la taille et vous avez un élastique et vous devez essayer d'aller le plus loin possible sur le tapis gonflable. Et il y a toujours un moment où c'est forcément l'élastique qui gagne et vous vous retournez projeté en arrière. Et ben moi, c'est exactement ma vie, c'était ça. C'est-à-dire essayer de fuir Dieu, mais toujours en sentant qu'il était là quelque part, pas loin. Mais de fuir, jusqu'au jour où il a gagné, son amour a gagné, et j'ai été rembobiné en arrière, c'est un peu douloureux parfois, mais merci Seigneur, c'est comme ça que je me tiens devant vous ce matin. Et tout ça pour dire que vraiment le Père est rempli d'amour, il guette son fils, et au moment où il le voit, et pareil, petit contexte historique, les hommes portaient des robes à cette époque-là, pas des robes de femmes, des robes d'hommes, hein, attention, mais on imagine qu'il se met à courir, donc on imagine que pour courir, pour être un peu plus à l'aise, il doit soulever un peu sa robe, quoi, pour pas être gêné, il court vraiment, et rempli de compassion, il sprint vers son fils, Et vraiment, de lever sa robe, etc., ça, c'était vraiment, pareil, quelque chose d'humiliant pour un homme. Vous savez, c'était vraiment une société patriarcale. L'homme, le chef de famille, c'était un peu comme un roi dans son domaine. Et cette attitude-là est totalement à l'inverse de ces standards culturels. Il lève sa robe et il court comme ça vers son fils. Et il l'étreint, il le prend dans les bras. Et je pense que son fils, c'était, comme il connaissait pas réellement son père, il a dû être vraiment touché. Voilà, on le sait, quoi. Il a été vraiment bouleversé par cette réaction. Et ce matin, le père est comme ça avec toi. Peut-être que tu te penses loin de lui, peut-être que tu as l'impression d'être séparé de lui. Mais lui, il court vers toi et il te dit, mon enfant, bienvenue à la maison. Viens dans mes bras d'amour. Oui, je sais tout ce que tu as fait. Vous savez, Dieu le sait, Dieu voit tout, il voit tout en toutes choses, il le sait. Mais il nous aime par-dessus tout ça. C'est comme la Pâque, vous savez, la Pâque, ça veut dire passer par-dessus. C'est comme si son amour, son sang à la croix a été versé. C'est comme si son amour passe par-dessus tout ça. Son amour est au-dessus de toutes choses. Et ce matin, son amour est au-dessus de ça. Mais il ne veut pas juste t'aimer et te laisser comme ça. Il veut t'aimer, mais il veut aussi te transformer et te rendre conforme à l'image de son fils. Et c'est ce que le Père fait dans cette histoire. Il met une robe blanche, une robe de fête, pas une robe premier prix, vraiment une robe précieuse, parce que c'est l'image du salut. Il est libéré, cette robe blanche, ça veut dire que toutes ses fautes sont pardonnées. Le fils vient dans une attitude d'humilité quand même, il y a une attitude de repentance, d'humilité. Et quand on s'approche de Dieu, vraiment qu'on se détourne, c'est ce qu'il s'est fait, il s'est détourné de ses œuvres du passé. Il a compris quand même qu'il était dans